Ceci étant dit, vous savez que régulièrement, je vous montre des chiffres sur les traductions de la Bible. Il y a ce fameux passage biblique qui dit que cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les ethnies, et alors viendra la fin. Et là, vous voyez que on est à 799 Bibles entières. Donc, il y en a le papier qui est là-bas est toujours un petit peu en retard. Là, on était à 796. Voilà. OK. Et donc, il y a, pour vous donner une idée, en l'an 2000, il y avait à peu près 2000 et quelques traductions de la Bible en tout ou en partie. Maintenant, nous sommes à 4145. Des centaines et des centaines d'équipes de traducteurs traduisent dans différentes ethnies pour traduire la Bible. Et donc, il y a une Bible nouvelle et un Nouveau Testament nouveau tous les 3 jours. C'est extraordinaire. Et puis, je crois que je vous disais la dernière fois, ça tient toujours, il y a une langue nouvelle qui est abordée toutes les 14 heures. On va vraiment au galop. Et cette prophétie de Jésus sur les temps de la fin, qui est un point de repère, qui a servi à tous les chrétiens durant des millénaires, on se dit, mais on y va. On y va. Parce qu'il ne reste que quelques centaines d'ethnies qui n'ont pas encore la langue, enfin une traduction dans leur langue en partie, quoi, une partie de la Bible. Hein. Mais ça va très, très vite. Une nouvelle langue est donc abordée toutes les 14 heures. C'est formidable. Voilà. OK. Avant de commencer aussi ce que je vais partager, un grand merci. Donc, je voudrais aussi m'associer, bien sûr, à ce qu'a dit Johanna et Pierre aussi. Un grand merci pour les temps passés, le week-end dernier. Il y a eu de vrais miracles, bien sûr. Il y a eu des temps prophétiques très, très forts. On a eu des temps réservés pour les temps prophétiques avec des serviteurs de Dieu qui étaient là. Et puis, j'aimerais dire un petit mot sur l'atmosphère générale, c'est-à-dire au-delà des miracles, alléluia pour les miracles, alléluia pour les dons spirituels, pour les prophéties, pour des guérisons, pour des délivrances. Mais j'aimerais dire quelques mots sur l'atmosphère générale que j'ai sentie, moi, le premier jour où je suis arrivé, dès que je suis sorti du parking. Il y avait l'odeur de frites à cause des... des bus qui faisaient à manger, quoi. Voilà. Mais des food trucks, c'est comme ça qu'on dit, c'est ça? Voilà. Comment? C'est pas des bus, voilà. Hein. Voilà. En tous les cas, une atmosphère générale de paix, de joie et d'un esprit de service. Une joie de servir et de qualité de service, et une atmosphère de prière. Alors ça, c'était palpable. Et dans les retours que j'ai eus, les gens ont été beaucoup touchés par ça. Alors c'est bien, c'est bien. On en reparlera, bien sûr. Mais ça, c'est important. Ça veut dire que des gens ont été touchés. Je voudrais dire, une fois encore, un merci tout particulier à Pierre Joly et à toute son équipe pour les repas de qualité. Il est là, Pierre. En tous les cas, pour tous les repas de qualité servis avec une super équipe souriante, serviable et vraiment disponible. Nos invités Sharon, Catherine et Tom, son époux, ont beaucoup apprécié, ainsi que tous les serviteurs et servantes de Dieu qui étaient présents et à qui on a servi un repas, notamment toute une équipe de pasteurs belges avec lesquels j'ai bien pu parler. Ils étaient très, très touchés de l'ambiance générale, en plus, je dirais, de la qualité d'onction des réunions. Encore merci, Pierre, donc. Et merci aussi à toute l'équipe des 200 bénévoles, tu disais, Pierre Exbraya, l'autre Pierre, qui se sont investis pour cette convention. Donc, les miracles sont importants, mais nous savons que les plus grands miracles, ce sont les vies transformées. Alléluia. Voilà. Les vies transformées qui deviennent donc des vies de disciples et de disciples du Christ. Nous profitons dans des moments comme cela de la formidable présence de Dieu, et c'est important, mais nous savons que ce qui est important, c'est de conserver, de continuer dans l'élan et de cultiver cette présence de Dieu dans nos vies personnelles, bien sûr. Une vie transformée, ce sont les bénédictions cultivées dans la durée. Je peux être visité par Dieu, je peux être pris dans une sainte présence de Dieu collective dans un temps particulier, et c'est formidable. Mais après, quand je rentre chez moi, tout cela Ça continue dans l'élan, mais ça doit être entretenu dans une vie avec le Seigneur, dans une vie de foi. Hein? Voilà. Il y a réveil, nous le disons souvent ici, il y a réveil lorsqu'il y a un émerveillement devant la personne de Dieu. Et cet émerveillement provoque une adoration, une louange et une consécration. Alors c'est vrai que parfois, Johanna nous le dit, nous pouvons louer, adorer à froid comme ça, bien sûr, parce que voilà, il faut faire chauffer le moteur. Hein, voilà. Mais il faut savoir que pour que ce réveil dure dans nos cœurs, dans nos âmes, il y a un côté émerveillement devant la personne de Dieu. Ça doit être entretenu, être cultivé. Comme je le dis souvent, il n'y a pas de baptême d'eau sans émerveillement. Il n'y a pas d'implantation d'église nouvelle sans émerveillement. On ne commence pas une église simplement avec des gens qui un jour ont levé la main dans une réunion. On commence une église avec des gens qui ont compris quelque chose de l'Évangile, qui ont compris quelque chose sur la personne de Dieu et qui sont émerveillés par Dieu et qui veulent faire passer ça à leur génération. Alléluia. La restauration de l'âme est toujours le fruit d'un émerveillement devant la personne de Dieu. Toujours, toujours, toujours. Cela n'a rien de léger, n'a rien de superficiel ou de passager. Un réveil, c'est un émerveillement dans la durée. C'est un émerveillement qui dure. La vie chrétienne normale, ce ne sont pas des secousses régulières et des coups d'onction particuliers, même s'il y a des secousses et s'il y a des temps d'onction particuliers, vous en avez peut-être eu, et moi j'en ai eu de très nombreux dans ma vie, mais la vie chrétienne normale, ce sont des bénédictions entretenues sur la durée. C'est un émerveillement devant la personne de Dieu sur la durée. Alléluia ? Ok, bon. C'est une vie transformée sur la durée qui fait qu'il y a vie de disciple, une vie de disciple donc entretenue et cultivée. Alors oui, le réveil va avec la durée et la foi va avec la patience. D'ailleurs, je crois que c'est Catherine Riolana qui a dit quelques mots là-dessus. La foi va avec la patience. Tu es touché par Dieu, tu es touché, impacté, questionné par la présence de Dieu, mais il faut savoir qu'il y a quelque chose, une relation avec Dieu qui doit être entretenue. La foi va avec la patience, ce qui fait dire dans l'Épître aux Hébreux, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui, par la foi et par la patience, héritent ce qui avait été promis. Le réveil, c'est la vie chrétienne normale, mais entretenue, soignée, cultivée. Ma question, c'est, est-ce que tu es un bon cultivateur ou tu es simplement un profiteur qui, de temps en temps, prend quelques fruits? Mais est-ce que tu es un bon cultivateur? Est-ce que tu cultives bien la présence de Dieu dans laquelle tu étais plongé dans des temps comme ça? Dans l'histoire de l'Église, les hommes et les femmes de Dieu ont été parfois puissamment visités par le Saint-Esprit. Nous parlons beaucoup de l'histoire de l'Église ici, chez nous. Alors, ce qui fait leur force et leur particularité, ce n'est pas simplement qu'ils ont été visités une fois ou deux fois. Il y a bien des serviteurs de Dieu qui ont été visités quelques fois, puis ça n'a pas donné un réveil ou ça a donné comme un pchit, un réveil qui disparaissait à peine il avait commencé. Hein? Mais c'est qu'ils ont entretenu, cultivé, soigné leur vie avec Dieu et les bénédictions reçues. Je vous mets une citation que je cite souvent quand je donne des cours sur l'histoire de l'Église. C'est Rick Joyner qui cite cela. Quand il étudie le réveil du Pays de Galles, il cite un autre serviteur de Dieu qui s'appelle Avner, et il dit ceci, je vais lire ça lentement. Le réveil n'a pas toutes les réponses. On peut en comparer l'éclosion avec des soldes de grands magasins. Celles-ci peuvent être spectaculaires, mais le plus gros des affaires se fait dans les ventes de chaque jour tout le long de l'année. La Pentecôte fut un jour extraordinaire. Mais la croissance régulière est venue du fait que le Seigneur ajoutait des membres à l'Église jour après jour. C'est exactement expliqué comme ça dans la Bible. Hein? Voilà. Mais quand on fera, les réveils font les grands titres, mais quand on fera les comptes dans tous les registres au dernier jour, on découvrira que le travail essentiel a été assuré par la prédication fidèle de pasteurs ordinaires, par le témoignage quotidien de chrétiens ordinaires, par la conquête des âmes dans les foyers et à l'Église. Le réveil, c'est la vie chrétienne normale, mais entretenue, soignée et cultivée. Alléluia. Donc, je tenais vraiment à partager cette pensée par rapport à, pour rebondir un peu, par rapport à éclosion. Voilà. Alors, je voudrais partager deux points avec vous. Le premier point, c'est le vrai but. OK. Alors, le vrai but lorsque nous sommes chrétiens, le vrai but lorsque le Saint-Esprit souffle, ce n'est pas simplement que je me sente bien. On va dire, bah, quand même, quoi. On ne va pas à éclosion pour se sentir mal. Mais non, la question. Mais le but n'est pas que je me sente bien. Le but, je vais aller plus loin, n'est pas simplement que je me sente visité par le Saint-Esprit. Le but n'est pas simplement que j'aille mieux. Le vrai but n'est pas que je sois guéri, même si j'ai besoin de guérison. Et si tu as un problème de santé et que tu as besoin de guérison, la guérison est importante. Mais le vrai but n'est pas que je sois guéri. Le vrai but n'est pas que je sois délivré ou que je sois libéré du tabac ou de l'alcool ou de la drogue ou de la colère ou de l'impureté. Le vrai but, c'est que je grandisse dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de la personne de Dieu et que je grandisse dans une meilleure qualité de relation avec Dieu. C'est cela le but. C'est cela le but. Le vrai but est que je grandisse dans une relation détendue et reposée avec Dieu. Le vrai but est que je grandisse dans l'émerveillement devant la personne sidérante, extraordinaire et éblouissante de Dieu et que je grandisse en émerveillement devant l'œuvre extraordinaire, formidable, inénarrable qui s'est passée un jour sur la petite colline de Golgotha. Alléluia. Je vous ai mis deux versets qu'on a beaucoup vus ces derniers temps, y compris Pierre en a cité un il n'y a pas longtemps, où l'apôtre Pierre, à la fin de son ministère, il dit ceci, « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » C'est le dernier conseil qu'il donne. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Il ne dit pas là « Croyez à la guérison divine ». Il ne dit pas là, par exemple, « Soyez délivrés de vos impuretés ». Il dit « Croissez dans la connaissance de Dieu ». Amen. Alléluia. Mais bien sûr, nous connaissons bien 2 Corinthiens 3:18, dont nous tous contemplons à face découverte la gloire du Seigneur. Nous sommes littéralement transfigurés en la même image de gloire en gloire. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de ressembler de plus en plus à Dieu et d'avoir une relation détendue, reposée, vivante, avec un Dieu vivant. Et ce vrai but, quand nous grandissons dans la connaissance de Dieu, ce vrai but aura pour conséquence, automatiquement, que je grandisse dans le service pour Dieu. Quelqu'un qui n'a pas compris qu'on est censé aimer Dieu, bien sûr, on est censé servir Dieu, quelqu'un qui n'a pas compris ça, je doute même de sa conversion, de son christianisme authentique. Bien sûr qu'on est censé grandir dans le service de Dieu, et grandir dans le service de Dieu implique de grandir dans le service au sein de son Église et de grandir dans le service avec son Église pour l'évangélisation et la mission dans le monde. Ça, c'est normal. Quelqu'un, par exemple, qui ne veut pas de vie d'Église ou qui ne sert pas ou qui sert du bout des doigts ou du bout des pieds ou du bout des dents dans une Église, c'est tout simplement, c'est quoi le problème? On en dira, oui, ben c'est ça, écoute, il est, tu vois bien, il est avec son tabac, il est avec sa drogue, il est avec son alcool, il est avec sa porno, etc. Le vrai problème, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est la connaissance de Dieu et la relation que la personne a vraiment avec Dieu. Alléluia. Si tu as des problèmes d'alcool, que tu as arrêté un temps l'alcool, que tu te remets à l'alcool, ben j'ai un grand sujet pour toi, je te le dis, ton problème n'est pas l'alcool. En fait, ta vie et ta relation avec Dieu est très pauvre, très médiocre, et parfois même très en dessous d'une vraie relation. C'est ça la clé. Donc, c'est ça qu'il faut apporter aux gens. Pour que les gens grandissent dans la connaissance de Dieu. Alors, bien sûr, on peut dire, bah oui, mais je viens tous les dimanches, je rends des petits services, je fais des beaux sourires le dimanche matin à 10h10, pas à 10h, parce que j'arrive toujours en retard, c'est autre chose. Hein, voilà quoi. Mais non. La clé, c'est où tu en es vraiment dans ta relation avec Dieu. Être touché par le Saint-Esprit provoque un émerveillement envers la personne de Dieu Mais surtout, ça implique une consécration, automatiquement, une vie transformée, une vie métamorphosée, une vie de disciple. Alléluia. Je ne veux pas être béni simplement pour être guéri, pour être libéré de l'alcool, de la drogue, ou pour être délivré de mes impuretés. Je veux être béni pour mieux connaître Dieu, pour plus servir Dieu, et pour plus être efficace envers les autres dans mon service avec Dieu. Alors, la question, c'est quel est mon but, quel est ton but? Quel est le niveau de tes exigences? Simplement, tu veux arrêter ton tabac? Tu veux arrêter ton alcool? Hein? Okay. Tu as peut-être vécu de bons moments dans des réunions ici ou à Éclosion ou ailleurs, etc., etc. Mais quel est le niveau de tes exigences? Où tu places la barre par rapport à ta relation avec Dieu? C'est ça la clé. Et là, on en revient souvent à une histoire de vraie consécration. De vraie consécration. Pendant que des gens se battent avec leur tabac ou leur alcool ou leur pornographie, le vrai niveau, c'est une vraie consécration devant Dieu. Et est-ce que je veux vraiment une vie de disciple? Quel est le niveau de tes exigences? Voilà. Est-ce que mes désirs et mes exigences sont centrés sur moi, sur mes besoins, ou sur mon désir d'adorer Dieu, mon désir de servir Dieu, et mon désir d'aimer et de servir les autres, et de vivre dans une qualité relationnelle meilleure avec Dieu, et une qualité relationnelle meilleure avec les frères et sœurs que Dieu a placés autour de moi? Beaucoup de gens, dans des moments comme Éclosion, ont été bénis. Bénis par les personnes engagées dans les services durant ce week-end d'Éclosion. Mais vous savez, quand je discute avec les gens qui ont servi, eh bien, beaucoup de gens qui étaient au service ont eux aussi été bénis et encouragés. C'est comme s'il y avait un retour de la bénédiction sur ces gens-là. Allez, bah oui, c'est comme cela. Hein? OK. Bon, ça va jusqu'à présent? Vous avez suivi? Ça va? Oui? Bon, alors. Alors, réveil et réforme, vin nouveau et outre-neux. Alors, on a bien des fois parlé de ça, mais j'aimerais embrayer sur quelques idées. Bon. Nous en parlions avec quelques personnes ces derniers temps et même dans un groupe de maison. En tant que serviteurs de Dieu, que servantes de Dieu, nous ne sommes pas là pour parler sur l'Évangile. On va dire, oh là là, qu'est-ce qu'il nous raconte le vieux? Attends, nous ne sommes pas là pour parler sur l'Évangile, pour prêcher sur l'Évangile, pour donner des renseignements, des informations sur l'Évangile ou des informations sur la parole de Dieu. Bien sûr, lorsque nous prêchons, nous donnons des informations sur la Bible. Nous donnons des informations sur la personne de Dieu. Mais ce n'est pas le but premier. Le but premier n'est pas de prêcher sur l'Évangile, mais c'est de prêcher l'Évangile. C'est une énorme différence, ça. Je répète. Le but premier n'est pas de prêcher sur l'Évangile, mais c'est de prêcher l'Évangile. Ce n'est pas de prêcher sur le Christ et de donner des informations sur le Christ. Ça, vous pouvez le faire en allant sur Internet. Il n'y a pas de problème. Hein? Ce n'est pas prêcher sur le Christ, mais de prêcher le Christ et d'annoncer le Christ. C'est-à-dire, c'est appliquer la parole de Dieu sur les gens, s'adresser aux gens et de s'attendre à ce que les gens soient confrontés à la parole de Dieu et fassent des choix face à cette confrontation. Le fameux Charles Grandison Finney, ce fameux évangéliste du 19e siècle, qui était ce qu'on appelait un awakener, je dis ça comme ça, awakener, un faiseur de miracles, un faiseur de réveil. Hein, Joe? Oui, elle rigole quand elle m'entend parler anglais. Elle me dit, bon, oui, je parle moins bien anglais que ta maman, c'est sûr. Bon. Et donc, ce faiseur de réveil reprochait à bien des pasteurs de son temps en leur disant qu'ils ne prêchaient pas l'Évangile, qu'ils ne s'adressaient pas vraiment aux gens, mais qu'il prêchait sur l'Évangile et qu'il ne faisait que donner des informations sur l'Évangile, mais qu'il n'appliquait pas l'Évangile sur les gens. OK. Cela, je dirais, prêcher sur l'Évangile, même un non-chrétien peut le faire. Hein. Aujourd'hui, vous n'êtes même pas obligé d'être chrétien pour faire des PowerPoints, pour piquer des idées dans l'IA ou comment, ChatGPT, je ne sais pas quoi. Hein. Voilà. Hein. Sans appliquer l'Évangile sur les gens, sans mettre de l'onction, sans oralité, prêcher et appliquer l'Évangile sur les gens. Ainsi, je vous ai mis des versets là, en Samarie et à Antioche, les chrétiens prêchaient la parole de Dieu, annonçaient la parole de Dieu, ils ne prêchaient pas sur la parole de Dieu. Vous comprenez un peu la différence? Bon, OK. Vous prierez là-dessus quand vous rentrez chez vous comprendrez la différence. OK. Donc, ce n'était pas simplement des données que les informations que donnaient les gens, c'était une application de l'évangile sur les gens. Je dirais même, là j'ai marqué, c'est une provocation. C'est-à-dire on applique, on propose et on invite les gens à faire quelque chose. C'est une provocation. Hein? Dans le réveil de Samarie, il est dit, Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, leur prêcha le Christ. Il ne prêche pas sur le Christ. Il prêche le Christ, des gens sont guéris, les démons sortent, etc. Dans le réveil d'Antioche, il est dit dans Actes 11, quelques-uns d'entre eux étaient des Cypriotes et des Cyrénéens qui, étant venus à Antioche, parlaient aussi aux Grecs, annonçant le Seigneur Jésus. Ce n'est pas leur parlant, leur donnant des informations sur le Seigneur Jésus. Hein. Dans la parole de Dieu, nous voyons les fameux habitants de Bérée avoir une excellente attitude face à la parole de Dieu. Je vous ai mis ce passage dans Actes 17. Ceux-ci, les chrétiens, les gens de Bérée, étaient plus nobles. Alors, j'ai vérifié le texte. Il y a parfois des traductions qui mettent, ils étaient dans un meilleur esprit. C'est le genre pour noble. C'est le mot pour noble. De même qu'il est utilisé parfois dans le Nouveau Testament pour désigner des gens nobles, des gens d'une cour royale, des nobles. Hein? Or, ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec toute bonne volonté, examinant chaque jour les Écritures pour voir si les choses étaient ainsi. Plusieurs donc d'entre eux crurent, et des femmes grecques de qualité, et des hommes aussi en assez grand nombre. Il n'y a pas eu besoin d'écrire une épître pour encourager ces chrétiens de Bérée. Il n'y a pas eu besoin, même si les épîtres circulaient dans le temps de l'Église primitive, les épîtres circulaient. Il n'y a pas eu besoin aux chrétiens de Bérée d'écrire une épître spécifique pour résoudre certaines déviations qu'il y aurait eu dans leur Église. Non, pourquoi ? Parce qu'ils étaient habitués à ouvrir la parole de Dieu et à aligner leur foi et leur vie quotidienne selon cette parole. C'est ce que nous voulons faire dans cette Église. Ouvrir nos Bibles pour vivre selon la parole de Dieu, individuellement et collectivement. Un vrai réveil, un vrai réveil qui dure implique une réforme. Réveil doit impliquer une réforme. Donc, on sait que dans l'histoire, ça n'a pas toujours été vrai. Hein. On ne met pas, disait Jésus non plus, du vin nouveau dans de vieilles outres. Parce que les outres se rompent et le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et toutes les deux se conservent. Alors bien sûr, le vin nouveau, c'est l'onction de l'esprit qui coule, alléluia, et qui coule à flot. Et les outres, ce sont les églises. Et les églises, il ne faut pas construire des églises selon des habitudes, des traditions ecclésiales qui viennent de Rome, d'Athènes, ou de ne sais pas quelle tradition. Hein. Voilà. OK. Il faut bien sûr faire cela selon la parole de Dieu. On met le vin nouveau dans des outres neuves et tous les deux se conservent. Vin nouveau et outre neuve. Réforme et réveil. L'onction et la réforme. Il faut les deux. S'il n'y a que réforme, on est dans du légalisme. S'il n'y a que du vin nouveau, il va se perdre. Voilà. Les gens doivent changer. C'est le vin nouveau. Les gens doivent changer. Et les églises doivent changer dans leur organisation, dans leur structure, dans leur façon d'être gérées. Alléluia. Beaucoup de réveils, on le sait, se sont arrêtés dans l'histoire parce qu'on n'a pas osé proposer, implanter, construire des outres nœuds, des églises selon la parole de Dieu. Soit parce qu'on avait peur. On avait peur d'aller plus loin. Bon, que des gens chantent en langue, que des gens tombent par terre, que des gens soient dans le rire, qu'il y ait des guérisons. Bon, ça va encore, on peut gérer. Mais reconstruire des églises selon des modèles néo-testamentaires, alors là, par religiosité, par aveuglement, par tradition religieuse, par un désir orgueilleux parfois de domination, de pouvoir, voilà, je suis le pasteur, je dois diriger, touchez pas à ma couronne. Non, mais je sais pourquoi je dis ça, parce que parfois j'ai discuté avec des gens, c'est un peu triste, hein. Mais tout simplement, il faut le dire parfois, c'est par un manque de connaissances bibliques. Le prophète Osée disait, mon peuple périt faute de connaissances. Alors, si tu fais partie de cette Église, sache que nous voulons sans cesse du vin nouveau du Saint-Esprit, mais que nous travaillons également sans cesse à une outre neuve, à une église selon la parole de Dieu, et pas à une vieille outre selon les habitudes et les traditions chrétiennes parfois bien éloignées de la parole de Dieu. Chaque église a son identité, chaque église a ses particularités, chaque église a ses zones de croissance, chaque église a son ADN, chaque église a ses niveaux de croissance et rythmes de croissance, chaque église a son histoire, chaque église est unique. Mais il y a des principes fondamentaux que l'on doit retrouver dans toutes les églises. Et c'est cela, une outre neuve, que l'on revient à des principes fondamentaux néo-testamentaires. Alléluia. Souvent, vous nous entendez parler qu'il n'y a pas deux feuilles d'arbres semblables, il n'y a pas deux feuilles de chêne semblables, il n'y a pas deux grains de sable semblables, il n'y a pas deux flocons de neige semblables, il n'y a pas deux églises semblables. Et cela doit être vécu tout en demeurant dans la parole de Dieu, selon les normes, les voies et les fondamentaux de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit désire manifester au monde, la grâce infinie et multicolore, comme il est dit dans la première épître de Pierre, la grâce multicolore de Dieu. Avoir des gens qui disent toujours les mêmes choses, qui ont toujours les mêmes façons de prier, qui ont des liturgies inamovibles. Et ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit désire manifester au monde la grâce infinie et multicolore, la connaissance de Dieu, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance qui sont en Christ. Dieu veut manifester au monde les beautés et les richesses de son cœur en montrant les beautés et les variétés de l'Église qui est son corps. Tout en gardant, je le répète, des principes fondamentaux néo-testamentaires et inaltérables qui sont valables pour toutes les générations, pour toutes les civilisations, pour toutes les cultures et pour toutes les ethnies. Je relisais dernièrement, je l'ai recopié, un passage qui m'a beaucoup touché, et c'est Ralph Chalice. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont connu Ralph Chalice ici, voilà, hein, qui était un serviteur de Dieu, qui est auprès du Seigneur maintenant, qui a beaucoup évangélisé, bien sûr, en francophonie, en France et en Algérie. Hein. Et lui, il avait une conception très claire de ce qu'était une église locale. Et Ralph Chalice, dans les années... Enfin, en 1990, on avait organisé, je m'en souviens, un camp avec lui, et il disait ceci. Il dit ceci dans un livre, d'ailleurs, qui s'appelle « Le corps vivant », je cite, « Comme chaque personnalité humaine, chaque fleur est unique. De même, chaque église locale développera sous la tutelle de l'Esprit de Dieu, un caractère unique, tout en restant conforme aux principes fondamentaux néo-testamentaires. Et toi, tu apportes ta part personnelle dans cette identité. Ta personnalité apporte à la personnalité de l'Église, tout en s'intégrant aux principes fondamentaux propres au Nouveau Testament. Sans toi, cette Église de la CBM serait différente. Tu es important dans cette Église. Tu fais partie de l'ADN de l'Église. Et sans cette Église, d'ailleurs, toi-même, tu ne serais pas la même personne. Voilà. Donc, je suis régulièrement étonné. Quand je dis étonné, quand je dis c'est très étonné. Je suis régulièrement étonné en discutant avec des gens qui sont parfois dans cette Église depuis des mois, voire même des années, et me confient des problèmes. Et je me rends compte que ces gens ont des habitudes, des croyances, des convictions qu'ils ont appris d'ailleurs dans une autre église, ou ils ont été pêchés ça sur Internet, ou dans des livres divers, et qui ne correspondent, des choses qui ne correspondent pas du tout à ce que nous croyons à la CBM, à ce que nous enseignons à la CBM, à ce que nous trouvons dans la parole de Dieu. Régulièrement, ces derniers dimanches encore, j'ai eu à prier pour des gens, y compris des gens qui sont passés par de vraies délivrances, qui pratiquaient des choses, qui vivaient des choses. J'ai dit, mais nous, on ne croit pas ça du tout. On ne croit pas ça du tout, et ton problème vient de ça. Donc, il faut premièrement, excuse de dire ça comme ça, un lavage de cerveau pour mettre les bonnes idées à la place de mauvaises idées. Je dis, mais on n'enseigne pas ça. Oui, mais moi, je suis dans l'église depuis des années. Et alors, tu fais quoi pendant qu'on prêche? Tu dis quoi pendant qu'on prêche? Va déjà dans un groupe de maison, écoute un petit peu, au lieu de regarder ton portable durant les messages, écoute les messages, puis surtout, écoute ce qu'on ne prêche pas. Parce qu'il y a des choses, ça, c'est pas nous. Alors, après avoir bien expliqué ça à la personne, on a pu, voilà, régler le problème et prier pour la délivrance. Voilà. Alléluia. Souvent, nous voyons cela chez des gens venus d'un autre milieu chrétien, mais parfois aussi chez des gens de notre assemblée. Parfois, il faut le dire, je mets ça entre guillemets, des gens têtus, bloqués dans des convictions personnelles, ou alors qui sont bloqués par des peurs profondes. Il y a parfois des choses que les gens, ils n'osent pas franchir le pas parce qu'ils ont peur. Peur de quoi ? Peur du diable, peur des puissances spirituelles, peur de désobéir à Dieu s'ils changent quelque chose dans leur conscience. Oui, mais si ta conscience est malade et a reçu des enseignements qui n'ont rien à voir avec ce qu'on prêche ici, il faut faire violence à ta conscience, te secouer. Alléluia. Hein ? On est là pour t'aider, bien sûr. Si tu fais partie de cette assemblée, il faudra certainement te débarrasser de vieilles habitudes et de vieilles pensées venues d'ailleurs et revenir à la parole de Dieu. Fais violence à ta conscience. Ouvre ta Bible, rééduque ta conscience et tes schémas de pensée. Là, vous avez le droit de dire Alléluia. Bon, je t'encourage à ouvrir ta Bible, à lire ta Bible toi-même, dans la présence de Dieu, avec le moins de commentaires possible. Il y a du « Oh là là !» Oh là, oui, parce qu'il y a parfois des gens, ils lisent leur Bible, et je me dis, mais attends, tu crois quoi ? Tu crois pas ce que tu viens de lire dans la Bible, hein ? Tu as ça de texte biblique, et puis tu as ça de commentaire en dessous, dans une édition qui n'est pas charismatique. Pourquoi tu crois ça ? Enfin non, lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. OK. Lorsque je priais pour préparer ce message, je réfléchissais à des enseignements qui caractérisent notre assemblée, la CBM ici. Des enseignements que nous partageons depuis des dizaines d'années et qui constituent l'identité et l'ADN de notre assemblée. Des enseignements qui ont souvent été en France, d'ailleurs, des enseignements pionniers, pour ne pas dire parfois révolutionnaires. Aujourd'hui, des serviteurs de Dieu me disent, mais Jean-Marie, il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand tu nous disais ça, franchement, on se moquait de toi, on te prenait pour un fou. Maintenant, on a envie de vivre ce que vous vivez. Alléluia. Bon, OK, je passe rapidement. Lorsque je priais à ce sujet, rapidement, le Seigneur m'a donné une bonne douzaine de types d'enseignements, et même beaucoup plus d'ailleurs, qui font que notre Église est un peu particulière. Puis je me suis arrêté là parce qu'il y avait tellement de sujets et d'enseignements qui défilaient, bien sûr. Hein. Alors, j'aimerais rapidement un peu citer comme ça, mais c'est pour dire que si tu fais partie de cette Église, il faut savoir que ce que nous croyons. D'accord ? Après, tu peux toujours passer comme ça, comme un touriste. Tu prends pas. Hein ? Mais si tu fais partie de cette Église, il faut savoir ce que nous croyons quand même. Hein ? Alors, bien sûr, on n'a pas le temps de tout voir. Alors, bien sûr, nous enseignons beaucoup sur la prière, la louange et l'adoration. Jonah le fait très bien, et pas seulement Jonah, bien sûr. Hein ? Notre particularité, c'est plutôt sur la façon de prier. Sur la façon de louer et la façon d'adorer, avec une recherche permanente de la présence de Dieu. Mais quand même, dans les premiers jours où nous avons commencé cette assemblée, nous n'avions pas encore de groupe de louanges. Et Johanna, qui était présente, était toute petite et ne savait pas encore parler. Elle disait quelques mots, mais au niveau prédication, c'était « arre, arre, arre ». Voilà. Bon, vous voyez qu'elle a progressé depuis. Hein, voilà. Et nous avions reçu cette parole prophétique qui disait que notre Église, alors qu'on était que quelques-uns, mon épouse dirigeait la louange en étant une mauvaise chanteuse. Et là, tu es d'accord, Jo, elle ne chantait pas bien. Elle chantait avec son cœur, avec un cœur énorme qui... Mais voilà, bon. Alors, et nous avons reçu cette parole prophétique que, je cite, « Nous apprendrions à l'Église en Europe à louer, à adorer et à danser devant Dieu. » Ça, je l'ai toujours cru. Toujours. Hein? OK. Alors, rapidement. Ouais, OK. 12 points particuliers d'enseignement biblique auxquels nous tenons beaucoup et que tu dois connaître parce que ça fait partie de notre ADN. Premièrement, pas de dénomination, mais nous voulons travailler avec tout le corps de Christ. L'autonomie de chaque église locale. Au-dessus de l'église locale et de ses responsables, il y a Jésus. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en discutant avec Tom Ruolana, le mari de Catherine, il m'a dit, mais Jean-Marie, je ne parlais pas de ça. Puis il me dit, comme ça, Jean-Marie, nous ne faisons partie d'aucune dénomination. Je dis, formidable. Je dis, ben nous non plus. Je dis, alors pourquoi tu ne fais partie d'aucune dénomination? Il me dit, parce qu'il n'y en a pas dans la Bible. On doit travailler avec tout le corps de Christ. Alléluia. Deuxième point, l'Église est dirigée par une équipe d'anciens où chacun exerce son ministère. En plus, il y a toute une équipe de ministères dans l'Église. Ça veut dire qu'il n'y a pas un pasteur, une Église, un pasteur principal, une Église, vous ne voyez pas ça dans la Bible. D'accord ? Et c'est important, il y a beaucoup de gens qui sont étonnés de voir comment ça fonctionne. Des gens me disaient, mais Jean-Marie, ça ne peut pas fonctionner. Parce que les gens se prennent toujours la tête. Tu mets plusieurs serviteurs de Dieu à la tête de l'Église, ils se disputent. Et s'ils se disputent, ils sont charnels. Et ça veut dire qu'aucun ne mérite d'être serviteur de Dieu. Voilà. OK, bon. Je passe rapidement. Troisièmement, un enseignement très clair sur la personne de Dieu. Et c'est un peu une particularité de notre Église. Vous lirez chez vous Sophonie 3, 17, où il est dit que l'Éternel, lorsqu'il pense à nous, gambade dans le ciel, quand même, quoi, hein, voilà, sur la personne de Dieu et sur la joie de Dieu. Un enseignement sur la pleine divinité de Christ. Et là, je dois le dire, il y a bien des églises où cet enseignement évangélique n'est pas clair. Je discute parfois avec des serviteurs de Dieu, je ne sais pas où ils ont été formés, mais la pleine divinité de Jésus, ah, pour eux, c'est presque un gros mot, quoi, hein. Or, la Bible nous dit, dans l'Épître aux Colossiens, quand Christ habite toute la plénitude de la déité. Alléluia. Ça vous dit quelque chose, ça? Qui connaît ce verset? Wow. OK. Bon, très bien. Ensuite, cinquièmement, un message clair sur l'œuvre de la croix. La grâce, la joie et la détente dans la grâce et la justification. C'est-à-dire la justification, je suis déclaré éternellement saint, juste et obéissant à cause de la sainteté, de la justice et de l'obéissance d'un autre, le Christ. C'est le scandale de la justification. C'est beaucoup plus que le pardon. J'ai mis en dessous une vraie dinguerie. Une vraie dinguerie. La justification, c'est une vraie dinguerie. Mais je crois qu'il faut enseigner là-dessus, honnêtement. On n'enseigne pas là-dessus généralement dans les églises évangéliques en France. Il faut le dire. On parle du pardon. Puis Dieu pardonne quand on a demandé pardon. Mais si ça s'arrête là, l'évangile, attention, hein. Qui ici peut dire devant Dieu qu'il a demandé pardon à tout le monde pour tous ses péchés? Qui? Qui? Personne. Mais nous sommes sauvés parce que nous sommes déclarés justes, parce que quelqu'un a été obéissant à notre place. C'est ça le scandale de l'évangile. OK, on continue. Sixièmement, les équipes de ministère. Nous reconnaissons bien sûr les ministères apôtres, de prophètes, bien sûr, et la place des femmes dans l'Église et la place des femmes dans le ministère. Exemple, la fameuse Junia qui a un ministère apostolique dans l'Épître aux Romains. Formidable. Voilà, tout à fait. OK. Alors, ensuite, les groupes de maison, la façon de gérer les groupes de maison. Je me souviens, il y a quelques années quand même, dans les conventions nationales des ministères à Grenoble, on organisait des ateliers, je présidais ces ateliers, pour expliquer aux autres églises en France qu'il fallait des groupes de maison. Ah ouais? Alléluia. Bon, on a beaucoup à progresser encore là-dessus. Ensuite, la notion de miracle, de dons spirituels, de vin nouveau. On ne veut pas simplement quelques miracles. Les dons spirituels, le vin nouveau, les dons multicolores du Saint-Esprit. Bien sûr, par exemple, les gens qui sont dans le rire, la poussière d'or, les copeaux d'or, les dents en or, les diamants, l'apparition de la gloire de Dieu, on a vu ça dans notre église, bien sûr. Mais il y a parfois des gens dans certaines églises, ils veulent bien des guérisons, ils veulent bien des miracles. Mais vous voyez, il ne faut pas que ça bouge de trop, quoi. Ben oui, alléluia. Hein? Dieu est un Dieu infini en grâce et en puissance, et quand Dieu se pointe et quand Dieu se bouge, il se passe beaucoup de choses. Okay. Ensuite, un message très particulier sur le monde spirituel des ténèbres, la position du chrétien. Il n'y a pas longtemps, j'ai prêché sur cette couverture. Hein. Beaucoup de chrétiens évangéliques, je m'excuse, hein. Beaucoup de chrétiens évangéliques ont des idées complètement fausses sur le monde spirituel des ténèbres. Certains pensent qu'un chrétien n'a pas besoin de délivrance, ou qu'un chrétien peut avoir besoin de délivrance, bien sûr. Puis certains pensent que les démons peuvent rentrer comme ça. Non, s'il y en a, ils peuvent sortir, mais ils ne peuvent pas rentrer comme ça si tu es chrétien. Écoutez le message des sept couvertures spirituelles. Hein? OK? Donc, la position du chrétien, les couvertures spirituelles. Tout dernièrement, nous avons repris avec Myriam, nous avons repris une personne de l'Église, depuis des années dans l'Église, qui est habituée à prier les morts. Il y a des gens qui prient les morts et qui prient des gens dans leur famille qui sont morts il y a des années et qui ont même des apparitions des morts. Ou alors, on s'appuie sur un passage biblique, sur la fameuse nuée de témoins. Mais jamais la Bible nous dit de prier les morts. La Bible interdit. La Bible interdit. Regardez dans le livre de Job, regardez dans le livre de l'Ecclésiaste. La Bible interdit. Ça, c'est de l'occultisme. Si tu fais ça, tu n'es pas chrétien. Si tu fais ça, tu n'es pas chrétien. OK ? Alors, il faut venir nous voir. On va régler le problème. Mais je me dis, j'ai dit d'ailleurs à la personne, mais comment ? Après un certain nombre d'années dans l'église chez nous, tu peux t'amuser à appeler ta maman qui est morte il y a des années, à ce qu'elle vienne chez toi, puis à lui parler, puis à lui demander qu'elle agisse sur toi et ta famille. C'est des démons qui apparaissent. C'est démoniaque. Alors là, on a un enseignement clair là-dessus, mais voilà, bon, d'accord. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. OK. Et puis, le dixième point, je l'ai mis, oui, des chrétiens qui ont besoin de délivrance, voilà, et sur la notion de démon de lien. Vous savez, Jésus ne brisait pas des liens. Quand il dit, par exemple, ne fallait-il pas délier cette dame, regardez, en fait, il chasse un démon. Si tu fais partie de cette église, nous ne prêchons pas les liens. Vous savez, ce fameux truc qui existe dans les milieux évangéliques, on invente des doctrines comme ça, voilà, et puis on brise les liens, puis on casse les liens, et puis etc. C'est pas dans la Bible. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait ? Il chassait des démons. Il chassait des démons si des gens avaient besoin de délivrance. C'est des démons, voilà. Alors, il peut y avoir, bien sûr, des problèmes de malédiction générationnelle, etc. Prenez l'habitude dans vos vies, et quand vous prêchez chez nous, bien sûr, prenez l'habitude d'utiliser un vocabulaire biblique. Ça évitera beaucoup de fausses doctrines dans la tête des gens. Mais il y a des choses très courantes, il y a des prédicateurs très courants sur Internet, et ça parle de liens spirituels. Et je coupe, et je découpe, et je tranche des liens, etc. Mais Jésus ne tranchait pas des liens, ne découpait pas des liens. Regardez ce qu'il fait. Soit qu'il exhorte les gens, soit qu'il enseigne les gens, soit qu'il fortifie les gens, soit qu'il chasse des démons. Ton lien, c'est peut-être tout simplement une mauvaise habitude. Ou alors, ton lien, c'est un démon, il faut chasser un démon. OK, ça va jusqu'à présent ? Bon, ce n'est pas le sujet, mais voilà. Et puis ensuite, le 11e point. Alors celui-là, j'allais l'oublier, je ne sais pas pourquoi. J'allais l'oublier, je l'ai remis, je ne sais pas quand, vers 1h du matin, j'ai dit, mais je l'ai oublié, quoi. Hein. Voilà. C'est-à-dire, parce que j'aime beaucoup ça, le créationnisme. Alors ça, on a été, ce n'est plus le cas maintenant, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent là-dessus. Mais on a été des pionniers avec mon épouse, qui était beaucoup documentée là-dessus en tant que nord-américaine, voilà, canadienne, sur le créationnisme, c'est-à-dire les premières pages de la Genèse, le déluge, les dinosaures et la Bible, etc., etc., etc. Il y a 2 ans, il y a une équipe qui est venue ici. Ils ont fait des centaines de kilomètres. Et ils ont assisté à la réunion. On a passé beaucoup de temps avec eux. J'ai passé beaucoup de temps avec eux. Et vous savez ce qui les a touchés ? Ce qui les a touchés, ce n'était pas la prédication, la louange, les prophéties et tout, etc. Ils ont beaucoup aimé. C'était qu'il y avait dans le fond de la salle une maquette de l'Arche de Noé. Vous savez que j'aurais pu vous montrer une photo pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, mais régulièrement, nous prêchons sur le créationnisme, sur le déluge, sur les dinosaures, la Bible et les dinosaures. Est-ce qu'il y a des dinosaures dans la Bible ? Oui, il y a des dinosaures dans la Bible. Est-ce qu'il y a des dinosaures dans l'Arche ? Oui, il y avait des dinosaures dans l'Arche. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hein ? Et que le déluge a détruit une grande partie des dinosaures. Ben ouais. Ben ouais. C'est un ancien prof d'histoire géographique qui vous parle de ça. Moi, j'en parlais à mes élèves. Hein. J'en parlais à mes élèves. Hein. Quand j'avais terminé une année avec mes élèves en histoire géo, ils croyaient tous qu'il y avait eu un déluge puis des dinosaures. Hein. Voilà, bon, voilà. En tous les cas, cette équipe qui est venue a été touchée en voyant cette maquette qui a été faite au 1/50e quand même, hein, et puis des dinosaures en plastique qui montaient dans l'arche. Voilà, OK. Je dois dire que nous continuons, bien sûr, à prêcher là-dessus. Et c'est plutôt Jécolia, ta sœur, hein, Joe, qui a pris un peu le relais sur ces choses. Hein, tu es d'accord ? Voilà. Elle fait ça, puis toi, en tant que dinosaure, tu fais autre chose. Hein, voilà. OK. Bon, et puis, le dernier point, mais voilà, si tu fais partie de cette Église, il faut que tu saches que nous croyons aux premières pages de la Genèse et qu'il n'y a pas des millions d'années entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2. Ouais, si tu ne crois pas ça, c'est aussi bien, je ne t'explique pas. Bon, OK, voilà. Ensuite, le dernier point, nous avons été aussi avec mon épouse, il y a bien des années, bien sûr, des pionniers par rapport à l'enseignement dans les milieux chrétiens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui le font. L'enseignement sur la famille, sur la vie de famille, sur la vie de couple. Nous avons été absolument des pionniers dans les milieux évangéliques en France, alors que les catholiques enseignaient là-dessus, sur la régulation naturelle des naissances. On connaissait bien avec mon épouse, on avait mangé avec eux, avec John et Evelyn Billings, qui sont des médecins australiens, qui sont auprès du Seigneur aujourd'hui. Hein, et on enseignait, on formait les gens pour, sur la régulation naturelle des naissances. Normalement, on traite aussi un peu de ça dans les préparations mariage. Voilà. Donc là aussi, c'est Gécolia qui a pris le relais. Voilà, sur la famille. J'aimerais dire une petite chose. Je vais donc bientôt terminer. Catherine Ruolana, elle a donné à un moment une prophétie sur moi durant le week-end. Alors, elle ne me connaît pas autrement. Hein, voilà, voilà. Elle m'a dit une chose qui est très vraie dans ma vie. Dieu connaît ça. Voilà. Elle m'a dit que Dieu m'avait donné une capacité et une onction pour soigner et pour sauver les couples. Et que bien des couples qui étaient en voie de destruction et de divorce allaient encore être sauvés et restaurés grâce à l'onction que Dieu avait posée sur moi là-dessus. OK ? Je ne peux pas en dire plus, mais je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Et si vous faites partie de cette église et que vous avez comme projet de divorcer de votre conjoint, je vous dis tout de suite, avec moi, vous serez abondamment aimé, choyé et rectifié. OK ? J'en dirai pas plus aujourd'hui. OK ? Voilà. Bien sûr, avec tout le travail sur les familles, il y a le travail pionnier parmi les enfants et les jeunes. Merci à toute l'équipe avec Hélène, Myriam, Nadia, Samuel et plein d'autres. Dans notre église, des enfants parfois bien jeunes ont fait une vraie rencontre avec le Christ et ont prophétisé, ont vécu des dons spirituels. Alléluia. Je termine avec cette conclusion. Sache bien si tu es ici, dans quelle église tu es. Connais bien ton identité ecclésiale. Voilà. Sois vigilant et sois intelligent sur ce que tu crois. Nous voulons du vin nouveau qui coule à flot. Amen. Et nous voulons une outre neuve selon la parole de Dieu. Une outre neuve cousue selon les normes et le style de Dieu. Une outre neuve souple, mais en même temps selon le style de Dieu. Nous voulons une famille de Dieu où chacun est émerveillé par la personne de Dieu et émerveillé par l'œuvre formidable du Christ à Golgotha. Veille et travaille à une relation joyeuse, vivante, détendue et émerveillée avec le Dieu vivant. Nous citons souvent ce verset, c'est le dernier verset, parce que ça dépend de la numérotation selon votre traduction, le dernier verset du psaume 16, « Tu me feras connaître le chemin de la vie. Ta face est un rassasiement de joie. Il y a des plaisirs à ta droite, Seigneur, pour toujours. » Alléluia. Soigne la transparence et le relationnel avec les frères et sœurs autour de toi, d'où l'importance des groupes de maison. Soigne la qualité de service, la qualité relationnelle envers ceux que Dieu a placés autour de toi. Soigne, comme on le disait dans le lundi matin à éclosion, d'ailleurs, c'est le moment que j'ai trouvé le plus fort, d'ailleurs. Soigne le don de soi, la mort à toi-même et la consécration envers Dieu et envers les hommes. Soigne la qualité de ton service au sein de la CBN. De Timothée, Paul disait, « Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour. » Et c'est un terme qui veut dire sobre bon sens, équilibre. Un esprit d'équilibre, un esprit d'amour, un esprit de puissance. OK. Je termine simplement en disant, soigne ton esprit. Entretiens et veille sur ton esprit. Et apprends à garder et à cultiver un esprit puissant en foi, j'allais dire même un esprit puissant en audace, en foi, un esprit en paix, un esprit calme, joyeux et vivant. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Marchez avec Dieu. Continuez. Continuez sur la durée. Il y aura un mariage prochainement. Si un jour tu as un projet de mariage et que tu dis à ta fiancée, chérie, je t'aime, je t'aime, je t'aime, ça sous-entend, s'il y a un projet de mariage, que ça va être sur la durée. Avec Dieu, c'est le même business. OK ? C'est-à-dire que tu travailles, tu cultives, tu entretiens, tu soignes la présence de Dieu sur la durée. Durée égale qualité. Durée égale éternité pour toujours. Que Dieu vous bénisse.